Voilà, Ruth, chapitre 4, qui se trouve à la page 190. Avant de lire le passage, je vais prier. Prions. Notre bon Père Céleste, merci pour cette parole, cette lampe à nos pieds. Merci de ce que tu ne nous as pas laissé dans les ténèbres, mais tu nous montres le chemin. Tu nous as donné cette lumière, cette parole. Et Père, nous allons te demander ce matin de faire en sorte, par ton esprit, que nous puissions comprendre ta parole, l'accepter et lui obéir, t'obéir. Et à notre bon Père Céleste, nous te demandons ces choses au nom de ton Fils précieux, Jésus-Christ. Amen. Ruth chapitre 4. Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, « Approche-toi, assieds-toi ici, toi un tel. » Il s'approcha et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, « Asseyez-vous ici, ils s'assirent. » Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi est revenue du pays de Moab, et elle vend la parcelle de terre qui appartenait à notre frère, Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, « Faisons l'acquisition devant les habitants de la ville et les anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter, rachète-la, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. En effet, il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. » Il répondit, « Je la rachèterai. » Boaz dit, « Le jour où tu achèteras le champ à Naomi, tu l'acquerras aussi de Ruth la Moabite, la femme du défunt, et tu devras maintenir le nom du défunt sur son héritage. » Celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne peux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirai mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. » Autrefois en Israël, pour valider toute affaire relative à un rachat ou un échange, on retirait sa sandale et on la donnait à l'autre. C'était ce geste qui servait d'attestation en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Faisons l'acquisition pour ton compte » et retira sa sandale. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Maclon, et que j'ai également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Maclon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères, ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Montre ta force dans Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire ressembler ta famille à celle de Pérets que Tamar a donnée à Juda. » Boaz épousa Ruth. Elle devint sa femme et s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mise au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la lignée de Pérets. Pérets eut pour fils Hetzron. Hetzron eut Ram. Ram eut Aminidab. Aminidab eut pour fils Nachshon. Nachshon eut Salmon. Salmon eut pour fils Boaz. Boaz eut Obed. Obed eut pour fils Isaïe. Et Isaïe eut David. Jusqu'ici, la parole de Dieu. vais demander à ceux qui font le PowerPoint. Donc c'est... Oui, merci. Oui. Merci, Costella. Alors, on a vu tout au long de ce livre de Ruth ces dernières semaines que le vrai héros de ce livre, c'est notre Dieu lui-même. Et dans ce chapitre 4, on va voir comment ce Dieu de bienveillance, ce Dieu qui nous aime, comment il nous comble au-delà de toute attente. Et on va voir qu'on est comblé parce qu'il dirige l'histoire. On est comblé parce qu'il dirige l'histoire. Et ensuite, on va voir qu'on est comblé parce qu'il vainc la mort. Il vainc la mort. Et troisièmement, on va voir comment il nous comble en nous réconfortant. Comblé parce qu'il nous réconforte, nous console. Donc, on va commencer avec ce premier point, le Dieu qui nous comble en dirigeant l'histoire. L'histoire, on va voir de nos vies personnelles, mais aussi de l'histoire avec H majuscule. Alors, on va revenir aux détails de cette histoire. Et on voit au début du chapitre 4 qu'il s'agit de l'histoire, le récit de deux hommes. Boaz, notre vaillant héros qu'on a rencontré ces dernières semaines. Et aussi un homme qui, dans ce texte, au chapitre 4, s'appelle Toi, un tel. Oui, cet autre rédempteur n'a pas de nom, il est anonyme. Et dans un sens, il est un peu le pendant du personnage d'Orpa au chapitre 1. Il fait un choix, comme celui du choix d'Orpa, qui, et on va le voir d'ici la fin de ce chapitre, c'est un choix qui se révèle désastreux, triste. Alors Boaz lui explique la situation. Il lui offre le rachat de la terre de Naomi selon la loi de l'Ancien Testament. Et cet homme anonyme, toi un tel, voit l'opportunité lucrative de la terre sans obligation, une bonne affaire. Et donc il est preneur. C'est vrai que le narrateur... un peu de suspense là, donc on ne sait pas, on veut tellement que Ruth et Boaz se marient, donc complication. Il dit oui, il va acheter cette terre. Mais quand il apprend que s'il y a quand même des obligations, notamment celle d'épouser Ruth, la Moabite, qu'est-ce qu'il fait? Il désiste tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il cherche à se protéger. Il cherche à protéger sa lignée, sa famille, ses enfants, avec l'héritage. Dans un sens, il pense au solde final, il pense au court terme, il pense à sa famille, à ses biens, à son héritage. Mais on voit à la fin de l'histoire, avec la descendance de Ruth, que Dieu est en train de faire quelque chose d'énorme. Et cet homme, toi un tel, passe à côté de ça. Il reste anonyme. Alors, nous ne voyons pas tout ce que Dieu est en train de faire dans la vie. Cet homme, toi un tel, ne pouvait pas soupçonner que Dieu allait faire quelque chose de grand par ce descendant de Ruth. Il ne pouvait pas le soupçonner. Alors, comment savoir si nous, on passe à côté de ce que Dieu est en train de faire dans la vie, en train de passer à côté de ce qu'il veut pour nous? On se pose ce genre de questions: quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Et c'est vrai que peut-être quand on est plus jeune, on pose ces questions plus fréquemment: qu'est-ce que Dieu veut que je fasse comme travail? Où est-ce que je dois habiter? Avec qui dois-je me marier? Et parfois on a tendance à nous mettre dans tous les états. Et on aimerait que Dieu dise clairement ce qu'il faut faire. Ça serait tellement plus simple. Mais Dieu ne nous promet pas ça. Il ne promet pas de révéler à l'avance ces choses. La Bible nous dit que les choses cachées sont pour Dieu, mais les choses révélées sont pour nous. Ça, on le voit dans la loi. Et donc, c'est la Bible qui est la parole révélé. Et comme Boaz, on n'a qu'à suivre cette parole. Comme Boaz, avec sagesse, fidélité, générosité, on ne sait pas ce que Dieu est en train de faire. À nous simplement de suivre cette parole de manière fidèle, de faire ce que Dieu demande, sachant que les commandements de Dieu sont bons. Alors Boaz fait ça, et il prend Ruth pour épouse. Verset 10, « Pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères, ni à la porte de sa ville. » Boaz reconnaît la bonté de la loi de l'Éternel, la loi de l'Ancien Testament. Tu as donné cette loi de rédemption, de rachat, pour que le nom du défunt perdure. En fait, Dieu n'oublie pas les morts. C'est quelque chose qu'on voit bien dans ce chapitre. Et Boaz suit fidèlement cette loi de l'Éternel. Il veut faire du bien, il veut honorer cette famille. Or, sans doute, il le fait quand même, pas simplement par simple devoir. Ça, je pense, on l'a compris au chapitre 2, lorsqu'il a vu Ruth pour la première fois, il a posé la question, mais qui c'est cette femme ? Et on a vu au chapitre 3 qu'il était ravi de la voir là. Il était ravi de voir qu'elle ne s'était pas tournée vers les jeunes hommes beaux, riches. Donc il est quand même ravi de l'épouser. Il est motivé aussi par ça. Mais ça, on voit aussi que Dieu, en dirigeant toute l'histoire, il se sert aussi de ces choses-là. Nos histoires personnelles font partie de sa grande histoire, avec H majuscule. Et on va voir, à la fin de ce chapitre, que l'histoire de Boaz et de Ruth dépasse de loin leur vie individuelle. L'auteur le sait, et c'est pour ça qu'il parle de leur descendance. Et cette histoire dépasse même l'auteur humain de ce livre de Ruth. Nous savons la suite de l'histoire, ce que Dieu va faire dans la suite de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et nous, on sait que cette lignée royale va aller beaucoup plus loin. Alors, bien des choses qui nous arrivent dans la vie nous dépassent, comme ces choses dépassaient Boaz et Ruth. Et de manière naturelle, on a tendance à tout ramener à nous-mêmes. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que Dieu me fait passer par cette épreuve? Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Mais très souvent, les desseins de Dieu sont plus grands que nous, plus grands que nos vies individuelles même. Que faire? Qu'est-ce qu'on fait si on ne comprend pas vraiment les desseins de Dieu qui nous dépassent? Lui fait confiance. Encore une fois, c'est ce que Boaz fait. C'est ce que Ruth fait. Ils lui font confiance. Ils savent qu'il est bon, qu'il est bienveillant, qu'il est fidèle. Que ses commandements sont bienveillants. Et ils suivent l'Éternel. Ils savent que Dieu fait toutes choses belles en son temps, à sa manière. Qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Alors, à partir du verset 11, on voit la réaction des gens autour de Boaz et Ruth. Ils invoquent l'Éternel. Ils invoquent la bénédiction de l'Éternel. Ils prient pour Boaz et pour Ruth. Versets 11 et 12. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Monte ta force dans Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, faire ressembler ta famille à celle de Pérez que Tamar a donnée à Juda. En fait, c'est une prière qui a de l'ambition. Il demande à Dieu de faire quelque chose d'énorme. Il demande à Dieu de refonder la nation d'Israël par la descendance de Boaz et de Ruth. De faire une nouvelle nation, en quelque sorte, à partir de cette descendance. Assez surprenant quand on pense au fait que Ruth est une femme moabite qui vient de loin, qui vient d'un peuple ennemi. La suite de notre passage nous montre la réponse à cette prière, au moins en partie. Le verset 18, cette généalogie à la fin, commence avec Pérez. Ça passe par Boaz. Mais ça termine dans ce livre avec David, avec ce grand roi de l'histoire d'Israël, celui qui a refondé un peu, en quelque sorte, la nation, qui a défini son territoire, qui a élargi ses frontières. En quelque sorte, ce livre de Ruth est là pour nous montrer quelque chose de l'histoire des ancêtres du roi David, ce roi que Dieu a choisi. Mais plus que l'auteur du livre de Ruth, nous savons que cette prière a eu un exaucement plus complet, bien des années plus tard. On le voit aussi dans une généalogie qui se trouve au début de l'évangile de Matthieu. Parce que Jésus-Christ, c'est le fils, le petit-fils, assez lointain, mais quand même, du roi David. Et donc, de Boaz et de Ruth. Et en lui, grâce à son œuvre sur la croix, Dieu est en train de refonder la nation d'Israël, le peuple de Dieu. Donc Dieu a répondu à cette prière dans le livre de Ruth en Jésus, avec une réponse encore plus grande. Ce Jésus, ce descendant de Boaz et de Ruth, de qui est issu un peuple immense. On est ce matin un témoin de ce fait. On est un peuple venu des quatre coins du monde, de l'Australie, de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord, de l'Europe. Dieu est en train de répondre même aujourd'hui à cette prière dans le livre de Ruth. Par Jésus, par ce descendant de Boaz et de Ruth. Donc Dieu règne de manière souveraine sur nos histoires, nos vies personnelles, mais aussi sur l'histoire avec H majuscule. Et pour faire ça, il suscite nos prières, cette prière ici dans le livre de Ruth. Mais Jésus aussi, dans son ministère, nous a associés à ce travail souverain de Dieu. Il nous a appris comment prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Jésus nous a invités à demander au Père d'accomplir l'histoire, de conduire l'histoire vers son but final. Et on voit ce but final à la fin de la Bible, avec les noces de l'agneau. Et il y a une prière à la fin de la Bible, Apocalypse 22. « Oui, je viens bientôt, dit Jésus. » Et nous, on répond « Viens, Seigneur Jésus. » On prie pour que Dieu accomplisse sa volonté dans nos vies individuelles, comme dans l'histoire avec H majuscule. Dieu est souverain, il conduit toutes choses vers ce but, vers son but, pour sa gloire, pour notre bien. Alors ça ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive dans la vie est simple, facile à digérer, loin de là en fait, parce que ce Dieu souverain, rien ne lui échappe. Tout ce qui arrive est selon ses décrets éternels. Mais il nous fait passer par la vallée de la mort parfois, la vallée de la maladie, du malheur. Mais il est souverain et il sait ce qu'il fait. Il conduit toutes choses. Son projet a un but centré sur lui, sur sa gloire, pour démontrer la grandeur de sa bienveillance pour notre bien, pour nous combler en lui, dans sa présence. Et il nous invite ce matin à lui faire confiance. On est comblé en lui, en Jésus, parce qu'il dirige toute l'histoire, nos histoires individuelles, comme l'histoire avec H majuscule, vers ce but, vers Jésus, vers la communion avec lui. Et il nous demande de lui demander d'accomplir sa volonté. On va passer au deuxième point, comblé parce qu'il vint la mort. Ce passage nous montre que Dieu est le Dieu qui vint la mort. Alors le mariage a lieu, Boaz épouse Ruth. On cerne là la réponse à la prière de Naomi au chapitre 1. Elle a demandé au Seigneur de bénir sa belle-fille avec un mari, avec du repos dans la maison d'un mari. C'est chose faite. On cerne aussi la réponse à la prière de Boaz qui voulait que Dieu bénisse Ruth. On voit que Ruth, dans cette histoire, a tout quitté pour suivre l'Éternel. Elle a quitté son pays, elle a quitté ses dieux, ses faux dieux, sa famille. Elle s'est attachée à l'Éternel. Et on voit ici que Dieu l'a richement bénie. Il ne faut pas voir là la garantie de bénédiction matérielle, relationnelle, pour ceux qui sont obéissants. Mais comme Jésus a expliqué à ses disciples, ceux qui le suivent fidèlement reçoivent quand même au centuple, dans cette vie, des bénédictions, dans l'Église, dans la famille de l'Église. Même si ce chemin est aussi un chemin où il y a parfois des persécutions. Et puis, après le mariage, on voit la bonne nouvelle. Un fils nous est donné. Verset 13. Boaz épousa Ruth, elle devint sa femme. Il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Alors, ce qui est assez surprenant dans la suite de cette histoire, c'est que le nom de Ruth n'est plus mentionné. Ruth est sans doute vraiment un héros de la foi, c'est clair. Mais l'auteur focalise la caméra sur Naomi. Et en quelque sorte, elle est un peu le personnage, à part Dieu bien sûr, le personnage central de ce récit de Ruth. Elle, Naomi, qui a connu la mort, la famine, la destitution. On voit d'ici la fin du livre que Dieu a agi. Il a tout renversé. Là où au début il n'y avait que la mort, la malédiction, le malheur, le manque d'enfants, pas d'héritier. On voit à la fin qu'il y a la vie, la bénédiction, la plénitude, un fils, un héritier. C'est Dieu qui a permis à Ruth de tomber enceinte. Ça nous rappelle Sarah, la femme d'Abraham. Ça nous rappelle aussi Anne, la mère de Samuel. Et bien sûr, bien des années plus tard, ça nous rappelle Marie, la mère de Jésus. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est le Dieu créateur qui est à l'œuvre. Celui qui crée de rien. Celui qui, dans la vie, là où il n'y avait que la mort, la malédiction, c'est celui qui peut ressusciter les morts. C'est celui qui peut vaincre la mort qui a fait ça. Verset 16. Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Et là, on voit toute la grâce dans ce récit. C'est un signe tangible de la bonté bienveillante de l'Éternel à l'égard de ceux et celles qui se tournent vers lui, comme Naomi, qui reviennent à lui. Naomi, on l'a vu au chapitre 1, est partie désobéissante au pays de Moab. Elle est revenue amère, les mains vides, sans rien en main. Elle voulait même changer son nom Naomi qui veut dire douceur. Elle voulait changer ce prénom pour prendre le nom Mara, ce qui veut dire amère. Et à la fin du livre, elle serre dans ses bras ce petit, ce fils. Parce qu'après la mort, il y a la vie. Comme elle avait dit au chapitre 2, qu'il soit béni, que Boaz soit béni de l'Éternel, cet Éternel qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Un fils lui est né, un enfant lui est donné. Dieu n'oublie pas les morts, il n'oublie pas les vivants. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. On l'a dit tout à l'heure, de ce fils qui s'appelle Obed, descendra le roi David. Et l'auteur a gardé ce détail pour la fin de son livre. Ce récit concerne la famille de David et montre au lecteur que cette famille, celle de David est bénie, que c'est une famille que Dieu aime. Dieu est avec cette famille qui représente un nouveau départ pour le peuple. Mais nous, on sait plus que l'auteur de ce livre de Ruth. Nous savons que Dieu a été avec ce descendant plus grand qui s'appelle Jésus, d'une manière encore plus particulière. En effet, tout le ministère de Jésus résume et accomplit ce que nous voyons dans ce livre de Ruth. Dieu est le Dieu bienveillant qui, de la mort, de la malédiction, donne la vie et la bénédiction. Il le fait par pure grâce. Il le fait par un rédempteur. Il le fait pour tous ceux qui se tournent vers lui de manière simple, de manière sincère. Il le fait pour tous ceux qui reviennent à lui. Et en particulier, ce message du livre de Ruth s'accomplit dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Par sa mort, cet époux rédempteur, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, cet époux rédempteur, Jésus a vaincu la mort. Et tous ceux qui mettent la confiance en lui, qui reviennent à lui avec une foi simple, avec une foi pénitente, tous ceux qui voient en lui la bienveillance du Père, en fait, Jésus a pris leur mort à leur place. Il a pris leur condamnation à leur place. Et par la foi, unis à Jésus, ils ressuscitent avec lui. Ils sont conduits à la nouvelle vie, à la régénération, à cette vie spirituelle nouvelle, et aussi à la résurrection physique en lui. On a en lui le pardon. On a en lui l'amitié avec Dieu, la réconciliation avec notre bon Père céleste. On est adoptés comme des fils et des filles de notre bon Père. Dieu ne va jamais oublier nos noms. Il n'oubliera jamais les noms de ceux qui mettent la confiance en lui, en son Fils, Jésus-Christ. Dieu a donc parlé de cet renversement de la malédiction de la mort bien des années avant la venue de Jésus. Il a donné des clins d'œil dans l'histoire qui pointent vers Jésus, qui nous montrent que de manière suprême, il va vaincre la mort, il va vaincre cette malédiction par son Fils, un Fils qui nous est donné par grâce, parce que Dieu nous aime. Et on a goûté à cet amour dans ce récit. Naomi y a goûté. Elle a vu que Dieu est le Dieu qui vainc la mort et qui nous donne la vie par pure grâce. Et nous, on sait que c'est par Jésus que nous avons cette vie. C'est lui qui, sur la croix, en se sacrifiant, il a rempli toutes les conditions de la justice divine pour qu'en lui, par la foi en lui, nous puissions avoir la vie sauve, pour que nous puissions avoir la faveur imméritée de notre Père. On va passer au dernier point. On est comblé par notre Dieu, le Dieu qui nous réconforte, qui nous console. Et on voit à la fin de cette histoire que Naomi est comblée. Elle est profondément consolée par ce qui lui arrive. Dieu lui a montré sa bonté, elle qui ne l'a pas méritée. Et les femmes ont dit à Naomi, verset 15, « Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse. » Car ta belle-fille qui t'aime l'a mise au monde, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Et donc ce récit nous laisse avec l'image de Naomi, consolée. Dieu a pris soin de cette femme qui est revenue vers lui. Il lui a donné cet enfant comme réconfort, comme consolation, comme soutien. Oui, cet enfant n'efface pas tout ce qui s'est passé, la douleur du passé, le décès de son mari, de ses fils, les regrets amers, toutes ces années passées loin de Dieu, loin de son peuple, loin du tabernacle, avec le lot amer qui était le sien. Mais cet enfant la console, cet enfant la soutient. Et c'est un signe de la bienveillance de notre Dieu. Et en quelque sorte, on voit le même schéma, le même modèle dans notre salut, dans ce que Jésus a fait pour nous. C'est comme ça que Dieu a agi en lui. Ce n'est pas surprenant, c'est le même Dieu. Il y a un air de famille. On a un Dieu qui nous console profondément. Nous, on a tous sans doute des souvenirs douloureux. Peut-être des regrets amers, des choses qu'on a faites dans la vie. On a peut-être des plaies à moitié cicatrisées ou des fragilités qui se cachent un peu sous la surface. Et Dieu sait ces choses. Et Dieu est venu réconforter, il est venu consoler. Alors cette consolation ultime, nous la voyons comme une promesse qui nous est donnée sur les dernières pages de la Bible. Dans l'Apocalypse 21, on voit la vision des noces de l'agneau avec son Église, cette Église qui est son peuple, issue de toutes les nations de la terre. Avec Ruth la Moabite, il y a peut-être un clin d'œil vers cette réalité d'un peuple issu de toutes les nations de la terre. Et on lit dans ce chapitre 21, « J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « De tout, je fais du nouveau. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Ça, c'est notre promesse. Ça, c'est notre avenir. Ces paroles sont certaines et vraies. Et on sait qu'elles sont vraies parce que Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts. Et on goûte déjà à ce réconfort, à cette consolation. Si on a mis notre confiance en Jésus, on y goûte déjà par le biais du Saint-Esprit. Jésus a promis de nous donner son Esprit, cet ami en justice qui vient à côté de nous, qui plaide notre cause, qui communique à nos cœurs malgré nos manquements, malgré nos doutes, malgré nos déceptions, malgré nos regrets amers, que nous sommes bel et bien des enfants de Dieu, pardonnés, lavés. On appartient à Dieu, il nous a adoptés. Et ces choses certaines, c'est fait. Si on adopte un enfant, c'est pour la vie, on ne peut pas revenir en arrière. On ne devrait pas pouvoir revenir en arrière en tout cas. Et ça nous réconforte profondément. On appartient à Dieu, ces choses faites. Dieu ne va pas revenir en arrière. Le Saint-Esprit nous pointe vers Jésus, vers notre frère, en qui nous avons cette adoption. Adoption par un Père qui nous aime. Et cet esprit témoigne à nos cœurs que nous sommes à lui et qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Oui, il nous fait passer parfois par des choses très difficiles. Mais l'esprit témoigne à nos cœurs que rien ni personne ne peut nous arracher à l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Dieu a un plan, il sait ce qu'il fait. Ce plan va s'accomplir. Oui, nos vies individuelles sont parfois chaotiques, parfois désobéissantes, certainement pas très ordonnées. Mais par nos vies, en nos vies, Dieu, le Dieu bienveillant, souverain, est en train de rédiger son histoire, l'histoire avec H majuscule. Il nous demande de lui faire confiance. Voici quelques strophes d'un cantique que j'aime bien. Oui, sur Dieu seul, repose-toi mon âme. Jésus est là toujours à tes côtés, dans la douleur, dans les eaux, dans la flamme. Son tendre amour a voulu te porter. Si Dieu te forme et t'éprouve, mon âme, il te conduit vers la félicité. Repose-toi paisible et confiante, laisse à Jésus le soin de ton bonheur. Dans le passé, son aide fut constante. Il restera ton guide et ton sauveur. Repose-toi, jamais Dieu ne t'oublie. Et l'heure est proche où Jésus va venir. Tu comprendras les peines de ta vie. Et tu verras qu'il voulait te bénir. Oh, que ta foi honore et glorifie Dieu qui t'aima pour l'immense avenir. Et ce livre de Ruth qu'on a étudié ces dernières semaines nous montre tout l'amour de ce Dieu souverain qui sait ce qu'il fait. Il est un Dieu bienveillant pour tous ceux qui se tournent vers lui, peut-être pour la première fois, et aussi pour ceux qui reviennent vers lui. Ça nous arrive dans la vie de nous éloigner de lui. Et ce récit nous montre la grâce abondante de notre Dieu d'amour qui nous fait revenir vers lui et qui nous pardonne et qui nous console. À la lumière de tout ce qu'on a vu ces dernières semaines, je prie que nos cœurs aient envie de revenir sans cesse à ce Dieu d'amour. C'est pas la peur qui nous motive, qui peut nous motiver à revenir à l'Éternel. La peur, si on a peur de la condamnation, c'est plutôt quelque chose qui va nous faire fuir. Mais quand on voit à quel point notre Dieu est compatissant, à quel point il est bienveillant, comme pour Naomi, on a envie de revenir. Ce Dieu est bon. Et on peut nous poser cette question à la fin de cette série. Est-ce que nous avons besoin de revenir à Dieu, à notre bon Père Céleste? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous tient loin de lui? Est-ce qu'il y a un amour malsain qui a captivé votre cœur et qui, de manière imagée, vous a emmené loin de Dieu? Quelque chose que vous avez préféré à Dieu lui-même? Est-ce que les petits compromis du quotidien vous ont fait perdre votre amour, votre premier amour pour le Seigneur? Ça nous arrive tous, je pense. Et on a tous besoin de ce rappel constant. Notre Dieu est bienveillant. Il est bienveillant vers tous ceux qui reviennent à lui. Il nous donne son Fils. Il nous donne cet époux rédempteur, ce pain de vie qui rassasie vraiment. Si on revient vers lui, il est fidèle pour nous pardonner. Il sera fidèle jusqu'à la fin. Rien ni personne ne peuvent nous séparer de cet amour. Il est avec nous. Et si vous n'êtes pas encore venu à lui, si pour l'instant vous ne pouvez pas vraiment dire « Oui, je suis chrétien, je suis Jésus », pourquoi ne pas demander à Dieu, même ce matin, de vous pardonner? Pourquoi ne pas demander à Jésus d'être votre rédempteur? De manière simple, reposez-vous non pas sur ce que vous avez fait, ou même sur votre demande, mais plutôt sur ce que Jésus a accompli à la croix pour que ce pardon puisse être offert. Ne restez pas loin de lui. La vie loin de Jésus, tôt ou tard, devient amère. Oui, ce monde nous offre bien des choses. Il veut nous offrir aussi le bonheur, l'épanouissement, longue vie, etc. Mais tôt ou tard, loin de Jésus, loin de notre Père bienveillant, la vie devient amère, surtout vers la fin. Venez à lui, même ce matin, même si vous êtes très jeune, ou même si vous êtes très âgé, et ça fait des années que vous entendez parler de Jésus sans avoir jamais vraiment fait le pas. C'est Jésus, cet époux rédempteur, qui vous est offert ce matin. Saisissez-le. Je vous invite à la prière. Prions. Merci, notre bon Père Céleste, de ce que tu ne nous laisses pas dans les ténèbres, dans l'amertume, loin de toi. Ce n'est pas ton désir. Tu veux qu'on soit béni, qu'on ait la vie en ton Fils. Tu veux qu'on vive cette plénitude, ce pardon, cette amitié, ce bonheur de te connaître. Merci pour ta compassion. Merci d'avoir donné un Fils. Merci d'avoir donné Jésus, ce Sauveur qui fait l'affaire, qui a donné sa vie sur la croix, qui s'est donné en sacrifice pour payer la dette, pour subir la condamnation qui devrait être la nôtre. Et notre bon Père Céleste, nous voulons revenir vers lui, et peut-être pour certains, venir à lui pour la première fois. Nous voulons nous appuyer sur Jésus ce matin. Merci pour lui, merci pour la croix, merci pour ce sacrifice qui paye la dette de nos péchés. Merci de l'échange que nous avons en lui, cette obéissance parfaite qui nous est donnée par la foi. Merci de ce qu'en lui, par la foi en lui, nous partageons le regard favorable que tu portes sur lui. Tu nous dis, fils et fille bien-aimés, tu nous adoptes en lui. Et notre bon Père Céleste, nous voulons te louer pour cette bonté imméritée, cette bienveillance extraordinaire. Donne-nous de ne jamais oublier à quel point tu es bon. Et dans les moments plus sombres de nos vies, lorsqu'on oublie, fais resplendir ta lumière, la lumière de Jésus, par ta parole, par le témoignage de nos frères et sœurs. Fais-nous revenir. Et notre bon Père Céleste, nous te louons ce matin pour ta miséricorde. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus lui-même. Amen.